Julien Traxel.
Le nouvel horaire des CFF entre en vigueur ce dimanche. En Suisse romande, il s'agit du plus grand changement en l'espace de 20 ans depuis Rail 2000. Concrètement, cette refonte complète de l'horaire offre 15% de trains en plus pour la Romandie, malgré les contraintes liées aux nombreux chantiers de modernisation et de développement de l'infrastructure ferroviaire. Conséquence, l'heure de départ de presque tous les convois est modifiée. La clientèle devra donc changer ses habitudes. La ville de Genève renforce son dispositif d'hébergement d'urgence. Alors que le thermomètre frôle les températures négatives la nuit, les autorités ont activé le plan Grand Froid pour au moins 3 nuits. Un abri PC supplémentaire de 8 ans de place a notamment été ouvert à Champel. Ce plan implique aussi un renforcement des tournées nocturnes pour aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue et leur apporter des couvertures ainsi que des boissons chaudes. Plus de 60 frappes israéliennes ont visé hier des sites militaires en Syrie. Ce bilan émane de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui évoque une intensification des raids aériens contre le territoire syrien. Selon l'organisation non gouvernementale, l'armée israélienne a mené près de 450 attaques en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad il y a près d'une semaine. Le cyclone tropical Chido a semé le chaos hier à Mayotte. Pour le moment, le bilan humain est de 2 morts sur cet archipel français de l'océan Indien, mais les victimes pourraient être bien plus nombreuses. Il faudra des jours pour affiner ce bilan, a estimé dans la soirée le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui se rendra sur place demain. Nouveau report au Japon du lancement de la fusée de la société Space One. Alors qu'elle tente de devenir la première entreprise privée japonaise à mettre un satellite en orbite, Space One a dû repousser sa tentative de décollage pour la 2e fois en 2 jours. Comme hier, ce sont les conditions de vent en haute altitude qui ont posé problème. Noé Ponty a réalisé une nouvelle prouesse au championnat du monde de natation en petit bassin. Le Tessinois a accueilli hier un 3e titre, qui plus est avec un record du monde à la clé à Budapest en Hongrie. Après le 50 mètres papillon et le 100 mètres 4 nages, Noé Ponty s'est paré d'or sur le 100 mètres papillon. Il a triomphé en 47 secondes 71, de quoi améliorer de 7 centièmes la précédente marque de référence établie par l'américain Caleb Dressel. Et en ski alpin, Lara Gut-Bérami est montée hier sur son premier podium de la saison. La Tessinoise a pris la 3e place de la descente de Beaver Creek aux États-Unis. Elle a concédé 34 centièmes à la vainqueur, l'Autrichienne Cornelia Hütter, alors que l'Italienne Sofia Goggia s'est classée 2e. Michelle Gisin est la seule autre Suissesse à avoir accroché le top 10. L'Obwaldienne s'est classée 8e. Le temps ce dimanche deviendra de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Si de nombreux nuages assombriront toujours le ciel en début de matinée, avec des flocons possibles le long des reliefs, ils ne tarderont pas à se disperser. Pour ce qui est des températures, elles ne dépasseront pas 5 degrés en pleine au meilleur de la journée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Salut, moi c'est Uma et je suis journaliste scientifique. L'autre jour, au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle. C'est extraordinaire, non ?
Eh oui, parce que je suis extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai convaincu Uma de faire un podcast sur moi. Enfin, sur les dinosaures.
Quoi de neuf, Dino ? C'est un podcast en 6 épisodes à retrouver sur l'application Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Côté jardin, Pauline Saiterly.
Bonjour vous, fidèles oreilles du dimanche. Merci d'être avec nous. Ce matin, 4 pros du jardinage et de l'horticulture répondent à vos questions jusqu'à 8h30. Et oui, cette semaine, cœur à cœur est avec nous toute la semaine et donc nous laisserons la place à la joyeuse équipe en vadrouille de cœur à cœur à partir donc de 8h30 ce matin. Nous avons 2h30 pour parler de vos sujets, de vos plantes, de vos arbres, de votre sol et de votre faune. Et ne pensez pas que l'imminence de l'arrivée de l'hiver freine les ardeurs des jardinières et des jardiniers amateurs et amatrices de Suisse romande, c'est pas le cas du tout. Nous avons reçu une bonne quantité de questions ce matin, nous en parlerons entre autres avec une thématique comme un naemium qui a mauvaise mine, un bébé figuier tout emmailloté ou encore un ficus échevelé. Si vous aussi, vous avez des questions, 058 134 0 134.
que tu sois ou que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncèlent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans les abysses qu'à fond trier, j'irai au fond de repêcher. Je suis là, je suis là, ici où tout là-bas, je suis là, je suis là, jamais bien loin de toi. Envers et contre tout, pour la vie jusqu'au bout, je suis là, glacé dedans et l'œil humide. Je viendrai rompre le silence en te chantant la vie qui danse. N'hésite pas une seule seconde, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui tient à toi. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis là, ici où tout là-bas, je suis là, je suis là, jamais bien.
Dernier titre de Louis Chédid, je suis là à 6h09 sur la première.
Infotrafic RTS.
Il n'y a plus de danger lié au contresens annoncé précédemment sur l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne entre l'échangeur des Serpitais et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix. Il est donc 6h09 et ils sont là autour de la table, les jardiniers, la jardinière du jour. Bonjour Véronique Eugène.
Bonjour tout le monde.
On est dans un studio tout différent de celui qu'on a habituellement en raison de cœur à cœur. Donc on nous a remis dans le studio qui est plus chaleureux, on va dire. On est bien les uns contre les autres et c'est plutôt agréable. Vous avez reçu quelques questions plantes d'appartement cette semaine. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui a retenu votre attention?
Oh bah oui, il y a des ficus, des dracénas, des étoiles de Noël. Enfin, c'est ma période.
C'est ouais, c'est votre moment de gloire. Et beaucoup d'arrosage, beaucoup de questions arrosage.
Non, non, à cette époque, c'est plutôt des feuilles qui tombent.
Et ça m'interpelle parce que vous allez nous parler tout à l'heure d'un arbre qu'il va s'agir de secouer pour faire tomber toutes ces feuilles. Et je me réjouis de savoir le pourquoi du comment. On en parlera avec vous dans quelques minutes, Véronique, puisque vous viendrez aux alentours de 6h20 pour proposer vos questions en direct dans cette émission. Et quelles questions vous ferait plaisir, si vous deviez demander une question au Père Noël, ce serait laquelle? Je vous laisse réfléchir, on revient à ça dans quelques minutes. Cédric Baudin, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Comment ça s'est passé cette semaine?
Mais plutôt bien. Les températures sont descendues un petit peu ces deux périodes. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait quand même des températures relativement, on va dire, tempérées. Un petit peu de bise aussi cette semaine sur Lausanne et environ, donc on a vraiment ressenti ce changement un petit peu radical comme ça avec le froid. Et autrement, on a commencé un petit peu à faire de la taille d'arbustes et d'arbres en prévision de ces plantes un peu feuillues pour la saison prochaine. Le ramassage aussi des feuilles à certains endroits. Et puis, des petits travaux d'entretien, un petit peu avant l'hiver, notamment le matériel aussi qu'il faut bien soigner pour qu'il soit opérationnel le mieux possible pour l'année prochaine, quoi.
Nettoyer ses outils, important, évidemment. On a beaucoup dit, après l'hiver dernier qui avait été si chaud et si sec, qu'on verrait les résultats plus tard. Et je me dis, ça doit être un petit peu cette période maintenant, non? Où on fait un peu le bilan de la santé des arbres et de comment ils ont traversé les étés précédents.
Oui, alors c'est juste. C'est vrai que c'est une période maintenant où c'est important de bien contrôler les arbres. Mais c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui souffrent maintenant depuis plusieurs années. Notamment les charmilles, les chênes, où on voit tout d'un coup la cime un peu de ces arbres, de ces plantes qui sèchent subitement. Ça, c'est un peu la conséquence de ces étés très secs, très chauds. Et ça se répercute, effectivement, le manque d'eau aussi, bien entendu. Donc, c'est toutes ces années-là, en fait, où il faut être attentif au printemps et puis aussi pendant l'été, quand les arbres ont des feuilles, parce que c'est des fois plus facile, on va dire, pour les amateurs, de voir qu'un arbre est en train un petit peu de dépérir, surtout dans leur jardin, quand il y a des feuilles. En hiver, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué.
Évidemment.
Mais bien sûr qu'il y a des signes. Il y a aussi une période maintenant où on est censé avoir une période plus humide. Donc c'est maintenant que certains champignons aussi se manifestent sur les troncs d'arbres et au pied des arbres. Et c'est là aussi très important d'observer et puis de porter l'information à des personnes professionnelles.
Si vous voyez des champignons au pied de vos arbres, n'hésitez pas, prenez-les en photo, envoyez-les à l'adresse cotejardin@rts.ch et vous aurez un premier avis de pro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Nicolas Feiss, comment allez-vous?
Ça va très bien, et puis je suis un peu comme Cédric. Ces feuilles d'automne tourbillonnent dans le vent. Et j'ai aussi pas mal ramassé de feuilles mortes, et ce qu'il faut faire surtout sur les pelouses, puisque les pelouses, autrement, elles vont pourrir là-dessous. D'ailleurs, j'ai déjà vu des pelouses qui ont souffert parce qu'il y a eu de la neige. On a eu de la neige fin novembre sur les feuilles mortes, justement. Puis ces feuilles mortes ont commencé à pourrir là-dessous. Et ça fait un peu des taches sur les pelouses déjà maintenant. Donc, ramasser ces feuilles mortes dans les pelouses, sur les pelouses, et laissez-les sur les plates-bandes. Les plates-bandes de plantes vivaces ou d'arbustes et tout. Et là, ça fait une protection. Ça fait une protection hivernale, et ça protège aussi la vie qu'il y a sous ces feuilles, donc toutes ces petites bêtes qui travaillent là-dessous. Et même des gros tas de feuilles, des jolies cachettes pour les hérissons.
En discutant avec un voisin, il me disait « Mais moi, je ne mets pas les feuilles sur les plates-bandes parce qu'au premier coup de vent, il avait peur que ces feuilles ne se répartissent à nouveau sur le gazon.
Vous oui, c'est vrai, mais avec la pluie et la neige, tout ça, ces feuilles sont pas mal collées à la terre, donc elles vont pas s'envoler. Et bon, c'est vrai, s'il y a un tas de 50 cm, ça peut s'envoler, ça c'est sûr. Mais une jolie petite couche de feuilles, c'est une jolie protection. Et en même temps, ça va faire de l'humus pour l'année suivante. Hein. Ces feuilles vont tranquillement se décomposer. On devra les enlever. Certaines, on va enlever un petit peu au printemps pour nettoyer les plates-bandes. Mais c'est vraiment l'idéal pour la terre.
Merci Nicolas. Je vous laisse aller au standard gentiment. Si vous voyez que ça clignote, je vois que Véronique est déjà allée rejoindre le standard téléphonique de l'émission. On peut vous joindre au 058 134 0134. Et puis, j'accueille... Non, mais pas Guillaume, vous. Je vous ai pas encore dit bonjour.
Bonjour Pauline. Là, mais je partais, pas. Moi.
Mais non, tranquille. C'est dimanche.
Oui.
Et vous, comment ça s'est passé votre semaine? Vos activités? Aussi ramassage de feuilles?
Non, moi j'ai plus ou moins fini ça quand même. Ouais, c'est assez. C'est pour les fêtes. J'ai dit maintenant on va gentiment se calmer, on va arrêter. Donc de mi-décembre à mi-janvier, j'aime bien plutôt juste faire attention justement aux chutes de neige, des choses comme ça qui pourraient faire de la casse sur des arbres. Là j'ai vu des bouleaux hein, pliés par exemple, du lierre qui est accroché sur des murs, qui s'était affaissé à cause de la neige qu'il y avait eu. Donc là on va réparer un petit peu ces petites choses là. Après, bien sûr, on peut toujours, si on a envie de s'occuper, on peut, je dirais, faire de la taille, de la taille d'arbre, du feuillu. Parce que aussi, ce qui est important, c'est bien de savoir ce qu'on peut faire, mais ce qu'il faut pas faire non plus maintenant. Alors moi, j'aime bien tailler tout ce qui est feuillu maintenant, pas de problème. Par contre, on voit encore beaucoup. J'ai vu beaucoup cette semaine des tailles de persistants, des étouillas, des laurels, tout ça. Et ça, je pense que ça, c'est pas le bon moment pour le faire. Quoi.
Et pour quelle raison?
Parce que c'est pas le même fonctionnement. Le persistant, eh ben il vit comme le feuillu, mais toute l'année. Un peu, il garde ses feuilles. C'est parce qu'il continue à faire sa photosynthèse. Il est pas au repos comme un feuillu justement. Où là, il y a la sève qui se transforme dans ses feuillus, tout ça. On peut se permettre de faire des coupes dedans parce qu'on va pas l'abîmer. Dans un persistant. Tuya, etc. Là, on a quand même de la photosynthèse, on a encore de la vie qui continue, plus ralentie, je dirais que c'est un peu plus ralenti, le cycle est ralenti, mais ça continue. Et donc ça, c'est pas une bonne période. On va plutôt privilégier le printemps ou jusqu'à l'été, voilà, pour faire ces coupes-là sur ce genre de plantes.
C'est des périodes où l'arbre est un peu plus résistant et un peu plus fort aussi, pour éventuellement se protéger des maladies qui pourraient subvenir ou survenir au moment de la taille.
Vous parlez des persistants?
Oui, tout à fait. Ouais, oui, je me disais pourquoi on les coupe, pourquoi on les taillerait plutôt au printemps plutôt qu'en...
Parce que là, on va faire des coupes sur quelque chose de vivant, mais vraiment vivant. Ouais,
plus vivants en hiver qu'au printemps.
Non. Non. Là, ils font pas de pousses, si vous voulez. Ils vont faire leur pousse au printemps. Là, ils seront pleins de vie, mais la différence entre le feuillu et le persistant, le feuillu, lui, il va se préparer pour l'hiver.
Alors ça, j'ai bien compris. Mais la question, c'était pourquoi on taillerait plutôt les persistants au printemps qu'en hiver?
Parce que maintenant, si on va pas couper un feuillage qui est en vie, qui fait de la photosynthèse, vous voyez, il y a une sensibilité. S'il y a un gros gel qui arrive sur ces coupes-là, sur du persistant, et ben là, on a la vie qui est là, on a la sève qui est là, qui alimente encore les feuilles toute l'année. Donc à cette période-là, si on fait des coupes là-dedans, eh bien là, on risque justement des brûlures dues au gel.
D'accord. Plus que donc l'humidité, le froid risquent d'amener des maladies qui n'y auraient pas au printemps. Ouais. C'est tout bon, merci beaucoup. Vous êtes vraiment patient avec moi. Je vous remercie, Guillaume.
Un plaisir.
Allez, je vous laisse repartir au standard où vous pouvez joindre nos spécialistes jusqu'à 8h30, 058 134 0134. Our Day, welcome Amy Winehouse sur RTS Première. 6h22 minutes. Véronique Eugène est de retour pour nous parler de ficus. C'est une question que nous avons reçue d'Astrid qui dit « Je me permets de recourir à vous pour mon ficus Benjamina qui perd ses feuilles. Je l'ai acheté en septembre de cette année, bien touffu, dans un pot en plastique. Il fait environ 1,20 m, exposé derrière une baie vitrée. Je l'arrose lorsque la terre est sèche sur 5 cm en éliminant le surplus d'eau. Il est sprayé deux fois par semaine sous la base du cache-pot. J'ai installé également un récipient d'eau qui ne touche pas. Alors, c'est très technique, hein, vous allez nous expliquer, mais enfin, elle a installé un récipient d'eau qui ne touche pas le pot afin qu'il ait de l'humidité. Malgré ses soins, il perd ses feuilles. Alors, que se passe-t-il, Véronique Eugène ?
Ben, ma foi, on est aussi en hiver avec les jours qui diminuent. Donc évidemment que par rapport à ce phénomène, il faut réduire aussi les arrosages. Et puis c'est vrai que, ma foi, quand les jours raccourcissent, le ficus, il a quand même tendance à perdre ses feuilles. Alors tous les jours, évidemment, on va constater une chute de feuilles. Alors une, puis deux, puis trois, puis quatre, et ça tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut le secouer une bonne fois pour toutes. Il y a le maximum de feuilles qui vont tomber, comme par exemple peut-être 20, 25 feuilles. On les ramasse et puis on verra que les jours suivants, les feuilles vont beaucoup moins tomber. Je pense aussi que vu son achat assez récent, je pense que ce ficus a aussi besoin d'être empoté, mais apparemment, elle peut patienter et puis attendre plutôt le mois de février quand les jours vont conséquemment rallonger.
On se réjouit.
Mais je ne pense pas que ce ficus ait plus de soucis que cela.
Alors, j'avais lu votre réponse un peu en avance et j'avais vu justement que vous conseilliez de le secouer pour enlever les feuilles. Puis je me dis, bah, tiens, mais pourquoi finalement ? Est-ce que c'est juste esthétique ? Et puis, en vous écoutant, je comprends que c'est plus que ça. C'est vraiment une stratégie. On le secoue pour faire tomber le maximum de feuilles.
Oui.
Pour pouvoir voir s'il y a une évolution.
Oui, parce que vous comprenez, psychologiquement, on voit les feuilles qui tombent tous les jours. C'est logique, hein. Alors que si vous le secouez une bonne fois, bah déjà vous allez peut-être être 4-5 jours sans voir de feuilles tomber. C'est un petit peu rassurant.
On va vers le mieux, on se dit. Voilà. C'est pas si mal. Donc voilà, c'est plus une stratégie pour mieux observer aussi ce qui se passe et puis voilà que vraiment une obligation physiologique de l'arbre en fait.
Tout à fait, ouais. Oui, oui.
Et elle se demandait aussi, notre auditrice Astrid, si le cache-pot qui est tapissé à l'intérieur d'un plastique pouvait étouffer l'arbre. J'imagine que le cache-pot ne peut pas vraiment étouffer.
Non, alors le cache-pot en lui-même, non. Mais je pense qu'il doit être quand même un petit peu à l'étroit. Donc un rempotage il serait nécessaire en début d'année.
Ficus un jour, ficus toujours, avec vous Guillaume Gomonnet. Josiane nous a écrit à propos aussi d'un ficus, c'est pas tout à fait le sien. C'est un ficus qui est là où elle enseigne, donc dans l'école où elle travaille.
Oui.
Et elle nous dit qu'il est visiblement très grand et plein de moucherons, ce qui est particulièrement désagréable. De mon côté, je souhaiterais le rabattre abondamment et nettoyer les feuilles avec du savon noir, mais le responsable de la salle me dit que c'est pas le moment de couper et qu'il suffit de bien gicler et de mettre des pièges dans la terre. Alors voilà, elle nous a envoyé les photos de ce ficus hein, en gros plan. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est vrai que c'est un ficus qui est très touffu, il a tendance à pencher, il a commencé un petit peu à être un peu... il n'a pas été taillé, je pense qu'il n'a jamais été taillé peut-être. Et on voit qu'il est un peu déformé, il a besoin quand même d'une certaine aération ce ficus. Alors c'est vrai que Véronique pourrait confirmer qu'on va tailler un peu plus tard, hein, normalement, hein, en début d'année, comme il disait, en février. Là, le problème, et puis je vais aller dans son sens, parce qu'il faut trouver une partie
couper la poire en deux.
Voilà, exactement, pour avec le concierge. Donc là, ce qu'il y a, c'est que donc ces moucherons, en fait, c'est de la cochenille. Hein. On voit sur les feuilles en gros plan, on voit très bien qu'il y a de la cochenille farineuse dessus. Donc, mettre des pièges dans la terre, je crois pas que ça soit une bonne idée. C'est même à déconseiller. Moi, ce que je ferais, justement, parce que la cochenille va quand même affaiblir la plante. Donc, je préfère tailler maintenant. Là, il va falloir enlever au moins, je dirais, un tiers du volume foliaire. À peu près un tiers. Donc déjà, ça serait mieux de le faire. Je préférerais faire tous les ans. Un petit peu moins fort que d'avoir des grosses coupes drastiques. Donc, c'est, et puis il y a moins de travail, on a moins de déchets dans des salles, vous savez, à l'intérieur, c'est toujours compliqué d'amener des gros volumes comme ça. Donc, je pense que ça serait bien de faire d'abord ça, cette taille. Donc, éliminer un petit peu l'intérieur, qui puisse un peu avoir du jour, vraiment l'éclaircir depuis l'intérieur. Et puis après, on va rééquilibrer un petit peu cette couronne, qu'il a une belle forme, tout ça. Et seulement ensuite. Là, on peut lui faire un petit traitement pour les cochenilles, donc qui sera encore là, avec un mélange de une dilution, donc dans un litre d'eau, 5% de savon noir. J'aime bien mettre un petit peu d'alcool dedans, et éventuellement de l'huile végétale, et on va nettoyer après ces feuilles. On peut renouveler si le problème persiste 7 jours après. Pour voir, puis généralement après on va se débarrasser, il sera en meilleure santé, il va revivre. Donc même si c'est pas tout à fait la période, je préfère le faire maintenant juste à cause des cochenilles, en fait. Voilà.
Ok. Et puis, en termes de temps, on taille maintenant, on attend combien de temps ensuite pour faire le nettoyage? Vous disiez, il faut attendre. Enfin, on commence par la taille? On peut faire directement
alors,
après?
Non, c'est logique. Hein, oui, on le fait directement après.
D'accord.
Si, je préfère tailler d'abord plutôt que de traiter. Tout ce qu'on enlève, forcément.
Parce que là, c'est sûr qu'elle nous parlait de faire feuille après feuille.
Oui.
Il est immense, ce ficus.
Il est déjà grand, donc c'est pour ça que ça va être un peu.
Il n'y a pas d'autre solution. On doit y aller vraiment en traitement feuille par feuille,
non,
nettoyer.
Non, on peut aussi en pulvérisation. Ce mélange, on peut le faire en pulvérisation. Moi, j'aime bien nettoyer parce que les cochenilles, des fois, elles ont tendance à bien rester. Alors, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu frotter, un petit peu nettoyer. Mais sur des gros volumes, comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, excusez-moi. Donc, en pulvérisation, ça irait. Mais du fait qu'elle va le tailler un peu, elle veut le tailler drastiquement pour le réduire. Donc, il y aura moins de feuilles. Donc, ça sera plus facile. Voilà.
C'en est clos pour les ficus, mais si vous aussi avez des ficus et des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous envoyer vos questions ou encore nous appeler, puisqu'on est là jusqu'à 8h30 avec nos jardiniers, notre jardinière, Véronique Eugène, Nicolas Faiss, Guillaume Gomonnet et Cédric Baudin, que vous pouvez joindre au 058 134 0 134.
C'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part. Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Dis-moi que tu m'aimes encore. La pluie coule encore.
L'amour, la pluie, c'est un peu la météo du cœur de Louane. Ce matin sur RTS Première à 7h32, c'est Willy Desélu qui a choisi les chansons ce matin. On le remercie pour sa programmation. Il est temps de la seule et l'unique véridique question bête. Anne Parvis, est-ce que la camomille, c'est un bon remède aussi pour nos amis à quatre pattes ?
Alors la camomille, oui, on peut vraiment l'utiliser chez les chiens et les chats sans risque. C'est vraiment, je dirais, la plante qu'on peut utiliser vraiment parfaitement pour l'interne comme pour l'externe. Donc en interne, en tisane, pour autant que l'animal veuille bien le prendre, s'il a des désordres gastriques, gastro-intestinaux, un peu mal au ventre, on peut mettre un petit peu de miel dedans pour le rendre plus appétant. On peut tout à fait lui donner ça en eau de boisson, mais il faut être sûr qu'il veut bien la boire, sinon ça se donne avec une seringue. Donc ça, c'est très facile à utiliser. Mais en externe aussi, c'est très très pratique et on risque rien. Donc on peut utiliser soit une tisane de camomille tiède ou froide, ou la teinture de camomille qu'on trouve en pharmacie, qu'on dilue toujours 1 sur 10 avec de l'eau si possible qu'on a bouilli avant. Et ça s'utilise sur des plaies, ça s'utilise par exemple au niveau des yeux, au niveau de toutes les muqueuses, ça ne brûle pas, donc c'est vraiment très très pratique. Quand on a une plaie qui est infectée, on désinfecte d'abord jusqu'à ce que cette plaie soit propre. Mais après, si on continue avec un désinfectant trop longtemps, on ralentit beaucoup la cicatrisation. Donc c'est à ce moment-là, quand la plaie est propre, qu'on peut commencer à utiliser la camomille, qui est désinfectante, apaisante. Et c'est vrai que si le chien la lèche ou le chat, ça n'a aucune importance, il le supporte très très bien. Donc, ça, on en a parlé dans une autre rubrique, on peut aussi l'utiliser en inhalation, chez le chien ou le chat qui a un rhume, qui a le nez bouché. Là aussi, ça passe très bien. On prépare cette inhalation avec du thé de camomille ou de la teinture de camomille diluée et on fait inhaler ça dans une cage au chat et c'est très bien toléré. En revanche, pour les yeux, si on veut nettoyer les yeux de son animal qui coule, il faudrait mieux utiliser de la teinture diluée que du thé de camomille. Parce que dans le thé de camomille, il y a des pollens, en fait, de la camomille. Et ça peut être légèrement irritant pour les yeux. Donc la teinture est préférable parce qu'il n'y a pas les pollens dedans. Mais toujours dilué 1 sur 10.
Vos questions à Côté Jardin, 058 134 0 134.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
Auriez-vous bien voulu vouloir ou avez-vous vraiment voulu?
N'avez-vous rien voulu savoir ou n'avez-vous vraiment rien su?
Avez-vous cru devoir pouvoir et n'avez-vous vraiment rien pu?
Vous avez bien cru vous y croire, mais
on vous a bouffé tout cru.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
Sans être face à son devoir, on ne peut pas avoir son dû.
Quand montait la crue des déboires, on pensait ne voir qu'un début.
Moi j'aurais bien voulu m'asseoir, mais pourquoi ce coup de massue?
On se retrouve à l'abattoir sans jamais s'être assez battu.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
S'il en restait dans la passoire, c'est un peu ça qu'on n'a pas su.
À balancer au dévaloir, ses désirs on les dévalue.
Il y a des filles, il y a des soirs, dans les défis nous ont déçus.
Je voulais un joli foutoir, mais tout était déjà foutu.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
Vouloir passer à l'été noir, les espoirs, quand ils sont ténus.
On appelle ça jouer pour voir et s'en retrouver dépourvu.
Quand on vit dans un étouffoir, le problème est assez touffu.
Le tunnel vous semblait tout noir quand le bonheur était tout nu.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Nous chantons avec les sangloirs quelques vieilles chansons qui s'engluent
dans l'armure de votre mémoire, dans l'armoire de notre âme émue.
Si nous pouvions vous émouvoir, ça nous en mettrait plein la vue.
Si c'est la fin du répertoire, c'est qu'hélas les repères tuent.
La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté.
Oups, pardon. Sarclos, Bellubert et Simon Gerber, je vous ai coupé la chic. Joli foutoir, très très jolie chanson de ce trio. C'était la quinzaine du blanc chez au gymnase, non, au club de gym de Sonsbeau, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement du titre de ce spectacle, mais enfin, c'était super et c'était un titre enregistré en 2005. Cédric Baudin, est-ce que vous avez fait le test du parler roman puisqu'on était justement sur de la chanson francophone romande?
Non, alors je n'ai pas fait ce test.
Et vous, Nicolas Faïs, vous avez fait le test du parler roman?
Ouais, on peut faire ça maintenant.
Mais vous, on sait que vous êtes valaisan, c'est vite vu. Mais quoi qu'il pourrait y avoir des petites surprises. Donc, comme c'est la mode en ce moment des tests génétiques pour savoir exactement d'où on vient, eh bien la RTS vous propose de participer au parlomètre. C'est une autre manière de savoir exactement d'où on vient, une manière peut-être un peu plus culturelle que génétique. Et c'est sur le site internet de la RTS que vous pouvez trouver ce parlomètre et faire le test. Donc vous jouez, on joue, on dit d'où, quelles sont les expressions qu'on utilise, et puis ça permet de trouver exactement la localisation dans laquelle on vient. C'est vraiment intéressant. Par exemple, le premier, c'est quand vous devez appeler quelqu'un de bête, d'idiot, est-ce que vous utilisez bedoum, bobet, niolu, toxon, topio, toyet, dadet ou badadia?
Ouais, moi je dirais badadia.
C'est vrai? Ah, j'avais jamais entendu ce mot-là. Et vous?
Je serais plus bedoum.
Bedoum. Ouais. Ben, moi je serais plutôt bobet. Mais ça dit bien que moi je viens plutôt arc jurassien, vous êtes bien lausannois Cédric, et puis badadia je ne sais pas d'où ça vient, mais
ouais, ça sent un peu,
c'est un peu valaisan,
certainement de montagne valaisanne.
Tout à fait. Bon, allez, si ça vous amuse et c'est franchement marrant à faire, c'est sur le site de la RTS, rts.ch. Parlons maintenant de vos questions jardin. Nicolas, il y a eu une question à Marie-Lys.
Oui, ça c'est, on peut dire, c'est une question de saison, puisque c'est des plantes qui se vendent maintenant, puis on les vend, c'est un oignon qui est nu, on peut dire, et posé dans un vase en verre, juste décoré avec quelques brindilles, et cette plante, elle vit avec la nourriture, avec la force qu'il y a dans l'oignon. Donc, elle n'a pas besoin d'eau, elle n'a pas besoin de nourriture, puisque ça se concentre dans son oignon. Alors, après la floraison, donc maintenant, on ne fait rien, on attend que ça fleurisse. Il faudrait peut-être juste poser ce vase dans un pot un peu, dans un cache-pot un peu plus lourd, pas qu'il se renverse, puisque ces tiges, c'est en floral, souvent elles peuvent venir à 60-70 cm de haut. Et là, il y en a trois, donc ça va faire lourd et puis ça va tomber. Alors, le poser pour pas qu'il se renverse. Et en fin de floraison, à ce moment-là, on peut, si on veut garder cet oignon pour une floraison ultérieure la saison suivante, on va le mettre dans de la terre pour qu'il puisse reprendre ses forces.
Il va absorber l'énergie du terreau dans lequel il va être mis.
Il va faire des feuilles. La plante va faire des feuilles. Les feuilles commencent à pousser à la fin de la floraison. Il y a des feuilles qui poussent au pied de ces tiges. On va couper ces en floral à la fin de la floraison et garder les feuilles et les mettre à un endroit bien à la lumière. Donc, on va rempoter dans un terreau léger, un terreau plante verte, un truc comme ça. Et ensuite, on va les cultiver, cet oignon, jusqu'au mois d'août. Et au mois d'août, on va laisser sécher tout ça. On va, fin août, on va nettoyer l'oignon, enlever tout le sec. Et on va le replanter au mois d'octobre. On va le replanter. Et à ce moment-là, on va le replanter soit dans un bocal comme ça, soit dans un pot avec un peu de terre. Puis on le plante au tiers supérieur du pot. Et puis ensuite, ça va fleurir.
Magique.
Prochaine.
Cédric Baudin, vous vouliez dire quelque chose sur la maryllis ?
Alors, pas forcément sur la maryllis, mais c'est vrai que c'est une question qui reste très intéressante et de saison, comme disait Nicolas. Et c'est vrai qu'il y a d'autres plantes, comme ces bulbes, hein, un peu ces plantes bulbeuses hivernales, comme les tulipes, comme les narcisses, où c'est vraiment important, lorsque la floraison est terminée, de laisser ces feuilles, de ne pas les couper. Parce que, comme a dit très justement Nicolas, toutes les réserves en fait vont se faire par ces feuilles, par la photosynthèse,
oui.
Et ça va descendre après dans le bulbe. Donc, mais c'est vrai que souvent on se dit, bon, on ne voit plus de fleurs, on sait que les fleurs seront l'année prochaine, donc on coupe
tout.
Et puis il ne faut surtout pas faire ça.
Et merci, parce que c'est vrai que j'ai dit, ah oui, il va absorber l'énergie qu'il y a dans le terreau. Mais non, évidemment que l'énergie vient par la photosynthèse. Donc voilà. Mais c'est quand même important de choisir une terre particulière où on peut vraiment remettre les bulbes dans n'importe quel type de sol.
Non, il faut de la terre, il faut une terre légère déjà, soit les tulipes, soit amaryllis, tout ça, une terre qui est bien drainée. Bon, ils ont besoin de nourriture quand même pour refaire justement leur provision. Et la terre qui est, moi je dirais qu'il faudrait une terre améliorée ou allégée avec du sable, ce serait pas mal. Pour ce genre de bulbes et d'oignons. Mais c'est vrai que actuellement, quand on voit le prix auquel se vendent ces oignons, ça vaut plus la peine de les conserver. Mais c'est dommage.
Bah oui, c'est dommage. Puis ça nous apprend plein de choses. Hein, c'est aussi ça, avoir.
Oui, et puis on voit un oignon qui a l'air complètement mort tout d'un coup, puis ça donne des énormes fleurs comme ça, c'est quand même formidable.
Merci beaucoup Nicolas Feiss. Et on va maintenant passer à vous Cédric Baudin avec une question qui nous est arrivée à propos d'un...
Figuier.
D'un figuier, exactement. C'est Olivier qui nous écrit « J'ai ce figuier sur ma terrasse orientée plein sud. Dois-je le rentrer ou peut-il rester dehors pour l'hiver? Si je le laisse dehors, comment le protéger? En vous remerciant de vos conseils. Salutations, Olivier qui habite Genève. »
Alors c'est également une question de saison. C'est vrai que ces plantes, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on doit faire avec pendant l'hiver, les rentrer, les laisser dehors. Il faut toujours s'imaginer que ces plantes, qu'elles soient petites ou grandes, quel est leur habitat naturel en fait. C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Et là, pour le figuier, bah, c'est clairement un arbuste ou un petit arbre qui reste dehors une fois qu'il est planté, la plupart du temps en pleine terre. Donc, il n'y a pas besoin de le rentrer. Maintenant, on a vu sur la photo qu'il nous a envoyée, c'est vraiment un tout petit ficus, tout petit figuier, c'est vraiment presque comme un sillon, il n'y a qu'une branche. Donc, il faut faire attention que s'ils annoncent des températures négatives pendant plusieurs jours, là, il faut peut-être protéger le pot avec une toile de jute ou avec un plastique à bulles ou quelque chose comme ça. Juste entourer le pot. Il n'y a pas besoin d'entourer la plante, mais au moins le pot. Et toutes ces questions d'hivernage, ce sont des questions très intéressantes, notamment aussi avec l'arrosage, parce que c'est vrai qu'il faut aussi beaucoup réduire l'arrosage en hiver. Ça, c'est vraiment important pour pas que ça pourrisse. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut faire un petit peu attention, quoi.
Et il nous dit pas, Olivier, quelle sorte de figuier c'est ? Est-ce que, en fonction de la variété de figuier, ça peut être différent? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus robustes et puis qui pourraient passer sans autre l'hiver sur le balcon, puis d'autres avec lesquels il faudrait être plus soigneux?
Alors, si c'est des figuiers, qui vont faire des figues, c'est clair qu'il existe maintenant d'innombrables variétés, c'est difficile de toutes les connaître, mais pour moi, toutes peuvent aller dehors. On n'a pas des hivers à moins 15, moins 20, comme dans certains pays où là, effectivement, il y aurait effectivement un risque. Et encore, je suis pas sûr qu'avec les nouvelles variétés du marché qu'on pourrait trouver, s'il n'y en a pas certains qui seraient encore résistants. Ouais. Donc là, chez nous, il y a vraiment aucun souci. Après, le petit conseil que je vais donner également, c'est éventuellement de le mettre dans un endroit vraiment abrité, où il y a peu de vent, il y a peu de courant d'air. Si c'est un endroit où il y a aussi de la bise qui est fraîche, qui est froide, là aussi, c'est important de le mettre un petit peu à l'abri.
Pour appeler Côté Jardin,
058 134 0 134.
Nicolas, on a reçu un message de Roxane à propos de son aéonium. Alors, qu'est-ce que c'est aéonium, déjà ?
Un aéonium, c'est une petite, c'est des plantes grasses, un peu des feuilles assez épaisses et en rosette, qui poussent en rosette et puis qui fleurissent aussi. Et ces plantes grasses, c'est la famille des crassulacées. Ça pousse très bien en appartement et sur le balcon pendant durant l'été. Et là, cette plante, elle a été un peu griffée ou comme mordue dans les feuilles. Et je peux peut-être supposer que c'est peut-être un chat qui est venu grignoter un petit peu les feuilles ou griffer un peu les feuilles et qui a été blessé un petit peu ces feuilles.
Parce que Roxane nous dit quelle maladie a mon aéonium. Et vous dites-vous peut-être l'arrivée d'un chat?
Oui, et moi je dirais que ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une terre trop compacte et humide. Vous savez que ces plantes grasses supportent une terre caillouteuse, on peut dire, bien drainée, et supportent des périodes de sécheresse assez longues. Donc ils peuvent manquer d'eau pendant 6 mois, et ensuite ils se refont une santé durant la saison des pluies, on peut dire, durant l'hiver. Et là, il faudrait peut-être juste changer la terre à ce petit pot, lui changer la terre, regarder comme elle est la terre déjà, et si c'est trop compact, la changer avec un mélange dit cactus, donc c'est pour les plantes grasses. Et au fond du pot, il faudrait mettre quelques billes d'argile pour bien drainer ce pot. Et ensuite, vous l'arrosez pour que la terre se tasse bien. Et ensuite, pendant tout l'hiver, vous pouvez, on peut dire, arrêter l'arrosage, oublier. Et aussi, pendant la saison, il n'y a pas besoin d'arroser ça 3 fois par jour. Donc, il faut laisser reposer la plante actuellement.
Merci beaucoup. Et ça vaut pour plusieurs autres plantes grasses. Hein. Si vous avez des plantes grasses chez vous, soyez parcimonieux. Est-ce qu'il faut être plus parcimonieux l'hiver ou est-ce qu'avec le chauffage, souvent c'est ce qu'on se dit, hein. Maintenant il y a le chauffage. Des fois les plantes sont proches de la fenêtre, mais aussi du coup proches des radiateurs.
Oui. Et ça, c'est des plantes qui supportent un peu plus frais l'hiver. Donc on peut les mettre dans un corridor ou protégées, par exemple, sur un balcon, vous pouvez les mettre protégées de la bise et les couvrir un petit peu avec un voile pour pas que ça gèle. Simplement, ça, éviter le gel à ces plantes.
Cédric Baudin, on termine avec vous avec le fameux ZZ. Il est 6h50. Je ne vais pas me lancer dans la prononciation de ce nom. Je vous laisse la joie de dire de quelle plante on parle.
Alors, le Zamioculcas. Zamilifolia, donc c'est une plante verte d'appartement qui fait le bonheur, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, parce que c'est une plante qui demande très très peu d'entretien. C'est vraiment une plante hyper facile, faut juste faire un tout petit peu attention avec l'arrosage, pas être trop gourmand, parce que comme l'a dit Nicolas, alors c'est pas forcément aussi facile, je dirais, que les plantes grasses, mais voilà, il y a pas besoin de l'arroser systématiquement tous les 2 jours, enfin une semaine en été, puis quand c'est l'hiver un peu plus toutes les 2 semaines.
Et donc vous disiez c'est facile d'entretien, mais on a quand même Michel qui nous a écrit à propos de son ZZ pour dire qu'il y avait un problème. Ouais, lui, son problème c'est que justement elle pousse trop bien sa plante.
C'est un bon problème, on dira. Pour moi, c'est pas un problème, au contraire. Après, on sait que c'est une plante qui a tendance, effectivement, dès que ça pousse, avec le poids des feuilles, parce que ça fait énormément de feuilles, et puis des feuilles quand même assez épaisses, donc ça amène du poids. Et on voit vraiment sa plante qui est en train de s'éventrer un petit peu comme ça. En fait, il n'y a qu'une solution. Alors bon, il peut couper un petit peu les branches, mais je trouve que c'est presque dommage parce qu'on peut faire des boutures de cette plante. Là, ce serait utile. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est prendre des tuteurs en bois, des petits tuteurs, les mettre dans le pot et puis attacher avec un petit peu de ficelle les branches, en fait, pour remonter. C'est aussi une plante, enfin, c'est plutôt une plante qui vit droite, on dira, que plutôt retombante. Et ça, c'est la solution la plus simple, en fait. Il n'y a pas besoin de couper de branches. Et simplement, il va rehausser ses branches. Et puis après, ça va donner déjà une forme de plante qui sera beaucoup plus agréable à regarder, quoi.
Mais il y a vraiment contre-indication à tailler, à couper?
C'est pas contre-indiqué, mais disons que c'est pas une plante qui est sujette ou qui a besoin de ça pour vivre bien. D'accord. Et là, vraiment, sa photo, sa plante, elle est magnifique. Il y a beaucoup de branches, certes. Alors, éventuellement, on pourrait couper une ou deux petites branches à la base. Mais je trouve que de couper, de tailler comme on taillerait un arbuste, je trouve que c'est dommage. Visuellement, en tout cas, ça va être beaucoup moins joli, puis ça va pas lui apporter quelque chose en plus. Donc, pour moi, je la taillerai pas. Et je ferai simplement une action de tutorage.
Nicolas, vous avez envie de rajouter quelque chose?
Oui, vous savez que le Zamioculcas est une plante qui atténue les méfaits des ondes magnétiques, des ondes telluriques dans une maison, par exemple. Et, maintenant qu'on habite dans des maisons construites avec du béton armé, on a beaucoup d'ondes telluriques qui se transportent par la ferraille qui a du béton dans nos maisons. Et il y a beaucoup de gens qui dorment mal puisqu'ils ont que du béton armé autour de leur lit. Et le Zamioculcas, c'est une plante qui atténue, on peut dire qui prend ses ondes telluriques en elle. C'est reconnu.
Dernière question. Après, j'arrête. S'il fallait bouturer, est-ce qu'on pourrait couper et bouturer une branche de Zamioculcas, par exemple? Ça pourrait être une bonne raison de le tailler, par exemple.
Oui, alors comme je disais avant, c'est une action qui est tout à fait possible pour multiplier cette plante. Il y a le bouturage ou bien le division aussi de la plante. Ça veut dire qu'on partagerait à la base la plante en plusieurs parties, ce qui peut faire aussi des plus petites plantes et puis moins de feuillage concentré. Donc oui, des boutures, ça peut être fait, tout à fait. Dans l'eau ou dans de la terre.
Merci beaucoup. Allez, je vous laisse retourner au standard. Je suis sûre qu'il y aura d'autres questions pour vous. Cher Cédric et Nicolas, au 058 134 0134, je me tourne et je vois qu'effectivement ça s'agite. Hein. Il y a Véronique Eugène et Cédric Baudin et Guillaume Gomonnet qui sont déjà au standard. 058 134 0134. Nous sommes ici avec vous jusqu'à 8h30.
Son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Si loin on voit les lumières, et la terre peut faire tous les bruits qu'elle veut. Y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Oh, elle m'a dit,
une chanson qui fêtait cette année son 30e anniversaire, La cabane du pêcheur, un titre de Francis Cabrel sur RTS Première. On poursuit notre émission après les infos avec un programme riche et gourmand puisque nous aurons Sylvie Ramel qui viendra ici en studio pour nous préparer une gelée de thé. Entre autres. Enfin voilà, on discutera un petit peu du thé. Qu'est-ce qu'on peut faire en cuisine avec le thé? On en a plein les placards, c'est génial. Et souvent, c'est un produit noble, malgré tout. Alors voilà, que faire du thé en cuisine, en gastronomie, durant les fêtes de fin d'année? Ce sera le sujet que nous aborderons à 7h20. Et puis on parlera de l'arbre apéro. Un apéro au pied d'un arbre pour célébrer la grandeur et la beauté de la nature qui nous entoure. Ce sera le sujet du reportage aux alentours de 7h40. Mais pour l'heure, voici l'actualité. RTS Première, il est 7h.